Lormet, son vieux serviteur, vêtu de neuf lui aussi, mais quand même bougon dans toute cette fête, ou pour peu de choses, parce que Gilet de Nesle prenait trop de place dans la maison, parce qu'on ne cessait de voir de nouveaux visages autour du maître, s'approcha de Robert et lui dit à mi-voix « La dame que vous attendez est là ». Le géant se retourna d'un bloc. « Conduis-la-moi » répondit-il. Il adressa un long clin d'œil à la comtesse, sa femme, puis, à grands gestes, poussa son monde vers la porte en criant « Sortez tous ! Formez-vous en cortège dans la cour !» Il resta seul un moment, devant la fenêtre, regardant la foule massée aux abords de la cathédrale pour admirer les entrées et contenue avec peine par un cordon d'archers. Les cloches, là-haut, continuaient leur vacarme. Une odeur de gaufre chaude montant d'un éventaire s'était mêlée à l'air brusquement. Les rues alentour étaient pleines, et l'on voyait à peine miroiter le canal du Hoquet tant les barques s'y touchaient. Robert d'Artois se sentait triomphant, et il le serait davantage encore tout à l'heure quand il s'avancerait vers son cousin Philippe dans la cathédrale et prononcerait certaines paroles qui ne manqueraient pas de faire trembler de surprise les rois, les ducs et barons assemblés. Et chacun ne s'en repartirait pas aussi joyeux qu'il était venu, à commencer par sa chère tante Mao et par le duc Bourguignon. Ah, certes, Robert allait bien étrenner son costume de père. 20 ans et plus de lutte opiniâtre recevraient ce jour leur récompense. Et pourtant, dans cette grande joie orgueilleuse qu'il habitait, il reconnaissait comme une fissure, un regret. D'où ce sentiment pouvait-il lui venir, alors que tout lui souriait, que tout se conformait à ses souhaits? Soudain, il comprit l'odeur des gaufres. Un pair de France qui va réclamer le comté de ses pairs ne peut descendre dans la rue en couronne à 8 fleurons pour manger une gaufre. Un pair de France ne peut plus gueuser, se mêler à la multitude, pincer le sein des filles et le soir brailler entre 4 ribaudes comme il le faisait lorsqu'il était pauvre et qu'il avait 20 ans. Cette nostalgie le rassura. « Allons !» se dit-il. « Le sang n'est pas encore éteint. » La visiteuse se tenait près de la porte, intimidée, et n'osant troubler les méditations d'un seigneur coiffé d'une aussi grosse couronne. C'était une femme d'environ 35 ans, à visage triangulaire et pommettes pointues. Le chaperon rabattu d'une cape de voyage cachait à demi ses cheveux nattés, et sa respiration soulevait sa poitrine, fort ronde et pleine, sous la guimpe de lin blanc.
Matin ! Il ne s'ennuyait pas, l'évêque, pensa Robert quand il s'aperçut de sa présence.
Elle fléchit un genou dans un geste de révérence. Il étendit sa large main gantée et chargée de rubis.
« Donnez » fit-il.
« Je ne les ai point, monseigneur, » répondit la femme.
Le visage de Robert changea d'expression.
« Comment ? Vous n'avez point les pièces ? » s'écria-t-il. « Vous m'aviez assuré que vous me les porteriez aujourd'hui. »
« J'arrive du château d'Hirson, monseigneur, où je me suis introduite le jour d'hier en compagnie du sergent Massiot. » Nous sommes allés au coffre de fer scellé, dans le mur, pour l'ouvrir avec les fausses clés.
Et alors ?
Il avait déjà été visité. Nous l'avons trouvé vide.
Fort bien, belle nouvelle ! Dit Robert, dont les joues pâlirent un peu. Voilà un grand mois que vous me lanternez. Monseigneur, je puis vous remettre les actes qui vous rendront la possession de votre comté. Je sais où ils sont muchés. Donnez-moi une terre et des revenus. Je vous les porterai la semaine prochaine. Et puis la semaine passe, une autre encore. Les Hirsons se tiennent au château, je ne puis y paraître quand ils sont là. À présent j'y suis allé, monseigneur, mais la clé que j'avais n'était point la bonne, patientez un peu, et le jour enfin que je dois présenter les 2 pièces au roi.
Les 3, monseigneur. Le traité de mariage du comte Philippe, votre père, la lettre du comte Robert, votre grand-père, et celle de monseigneur Thierry.
Mieux encore, les 3. Vous arrivez pour me dire tout niaisement, je ne les ai point, le coffre est vide. Et vous pensez que je vais vous croire?
Mais demandez au sergent Massiot, qui m'accompagnait. Ne voyez-vous pas, monseigneur, que j'en ai encore plus grand méchef que vous ?
Un méchant soupçon passa dans le regard de Robert d'Artois, qui, changeant de ton, demanda
« Dis-moi, Ladivion, ne serais-tu pas en train de me truffer ? Cherches-tu à me soutirer davantage, ou bien m'aurais-tu trahi pour Mao ?»«
Monseigneur, qu'allez-vous imaginer ? S'écria la femme au bord des larmes. Quand toute la peine et le dénuement où je suis me viennent de la comtesse Mao, qui m'a volé de tout ce que mon cher seigneur Thierry m'avait laissé par testament. Ah, je lui souhaite bien autant de mal que vous pouvez le faire à madame Mao. Pensez, monseigneur. 12 ans, je fus la bonne amie de Thierry. à cause de quoi beaucoup de gens me montraient du doigt. Pourtant, un évêque, c'est un homme tout pareillement aux autres. Mais les gens ont de la méchanceté. »
La Divion recommençait son histoire que Robert avait déjà entendue au moins trois fois. Elle parlait vite, sous des sourcils horizontaux. Son regard semblait tourner en dedans, comme chez les êtres qui ruminent sans cesse leurs propres affaires et ne sont attentifs à rien d'autre qu'à eux-mêmes. Forcément, elle ne pouvait rien espérer de son mari, dont elle s'était séparée pour vivre dans la maison de l'évêque Thierry. Elle reconnaissait que son mari s'était montré plutôt accommodant, peut-être parce qu'il avait, lui, cessé de bonne heure d'être un homme. Monseigneur comprenait ce qu'elle voulait dire. C'était pour la mettre à l'abri du besoin, en remerciement de toutes les bonnes années qu'il lui avait données, que l'évêque Thierry l'avait inscrite sur son testament pour plusieurs maisons, sommes en or et revenus. Mais il se méfiait de Madame Mao, qu'il était obligé de nommer exécutrice testamentaire.
« Elle m'a toujours vu de mauvais œil, à cause de ce que j'étais plus jeune qu'elle, et qu'autrefois Thierry, c'est lui-même qui me l'a confié, avait dû passer par sa couche. Il savait bien qu'elle me jouerait méchamment quand il ne serait plus là, et que tous les hirsons qui sont contre moi, à commencer par la Béatrice, la plus mauvaise, qui est demoiselle de parage de Mao, s'arrangeraient pour me chasser de la maison et me priver de tout. »